Bonjour à toutes et à tous. Une association virulente attaque la politique urbaine de la maire actuelle de Paris et ça remplit les gazettes, les journaux, Internet, parce que les administrés de Madame Hidalgo dénoncent les embarras de Paris, les travaux en continuité et aussi la politique de circulation qui fait que le Paris d'aujourd'hui, non seulement a des chantiers permanents, mais en plus, évidemment, liés à ces chantiers et aussi aux réglementations très contraignantes, a de très nombreux embouteillages. Alors, il est vrai que les villes des régions, pour ne pas dire de provinces, on se rend compte qu'elles ont à peu près les mêmes problèmes parce qu'il y a une sorte de folie qui a gagné à peu près tous les maires des villes de notre pays de travaux dans la partie historique des villes, qui est la partie qui est justement la plus dense et la plus difficile pour se mouvoir, pour circuler. Et on a d'une manière peut-être moins spectaculaire, mais il faut dire aussi qu'il n'y a pas la caisse de résonance des journaux, de la presse, de la télévision qui, comme l'on sait, a ses quartiers dans la ville capitale, et disons que cette contestation est beaucoup moins visible dans nos villes. Alors, on va parler de Toulouse, et Toulouse, effectivement, à des travaux qui durent depuis longtemps. On voit par exemple que les axes d'accès, notamment la rue Saint-Michel, on ne sait pas pourquoi, elle est bouchée et on a du mal quand on s'y engage dedans de faire demi-tour. Les contournements sont particulièrement difficiles et notamment pour accéder au cœur du croisement entre les deux axes principaux que sont la rue du Languedoc, rue Alsace et la rue de Metz, on a effectivement beaucoup de mal puisque les contournements ne nous ramènent pas justement dans des interdictions et dans des chantiers, et notamment le plus spectaculaire et qui dure le plus longtemps, c'est celui de la rue de Metz. Il faut dire aussi que parallèlement à la rue de Metz, il y a la rue Croix-Baragnon qui est aussi, je ne sais pour quel projet, fermé depuis des mois et des mois. Alors, j'ai vu que le chantier de la rue de Metz va aller encore durer jusqu'en 2025 et on ne sait pas très bien pourquoi ? Alors, pourquoi d'abord ce sont des travaux prétendus d'embellissement et forcément lié à cet embellissement, il y a aussi l'idéologie actuelle du cycliste, du piéton qui doit avoir de plus en plus de place. Alors, entendons-le bien. Je ne suis pas du tout contre la sécurité des cyclistes, mais enfin, ce que l'on voit, et notamment apparaître sur la presse ou sur Internet, les édiles locaux en vélo devant ces énormes sigles sur le sol, on voit en fait la façade, on peut dire la façade du sol, qui en est une, et qui a pu faire dans l'histoire l'objet de soins particuliers, d'allage de pierre, de pavés, de couleurs, aujourd'hui il y a d'énormes sigles. Alors je ne sais pas pourquoi les vélos doivent être quasiment grandeur nature au sol, avec des déformations que l'on appelle des anamorphoses, avec aussi des gros chiffres énormes qui indiquent 30, comme si on avait affaire à des malvoyants qui, rappelons-le, ne conduisent pas les voitures et généralement ne roulent pas en deux roues. Donc, on a l'impression de rentrer dans ce que dans l'infantilisation, du moins l'infantilisation récente, telle que les gens voient les enfants, où on a besoin d'avoir des gros signes, ce qui n'était pas le cas avant. Et alors là, on a cette généralisation de l'infantilisation qui gagne absolument tout. Donc on a une sorte de sol qui devient bigarré, avec des grandes bandes blanches, des hachures, des voies, des sigles et des chiffres énormes, et évidemment cela est d'une laideur totale. Alors il est évident que les gens qui prennent des photos, les touristes, ils vont se trouver avec ce premier plan qui est complètement d'une laideur totale. Bon, vous me direz que aujourd'hui il y a les logiciels qui permettent d'effacer. Mais bon, je plaisante, parce que on peut dire la pollution visuelle est permanente, et on ne comprend pas que les règlements d'urbanisme, qui sont aussi tatillons sur les joints des briques, sur la couleur des cadres des fenêtres, ou même de tissus des stores, permettent à je ne sais pas quelle technocratie enivrée de son pouvoir de gâcher à ce point la ville. Alors, je parle de technocratie parce que effectivement, c'est là le problème. J'en ai déjà parlé les attaques que l'on peut faire sur les maires, sur les élus, évidemment, elles sont justifiées parce que c'est eux qui ont le pouvoir de décision, le pouvoir d'entraînement. Mais les choses sont beaucoup plus complexes aujourd'hui, parce que il y a quelque chose qui est entré dans le système, qui est entré petit à petit, qui s'est développé en nombre d'une manière incroyable, la technostructure et pour en fait une technicité qui n'a pas augmenté. Quand je vous parle par exemple des signes sur les routes, il y avait des plaques anciennes, il y avait des signalisations, et il y avait aussi des choix de matériaux qui étaient faits, c'était fait sans que l'on ait des dizaines et des dizaines de soi-disant spécialistes de l'esthétique urbaine, joli nom d'ailleurs, qui agissait. Donc on peut dire que les exécutants étaient en prise directe sur les maires, les exécutants qui étaient, alors évidemment, qui étaient les architectes, des paysagistes, des jardiniers qui embellissaient la ville, et les maires directement avaient le choix. Alors on a tous l'image de Le Nôtre avec Louis XIV, mais là aussi on a vraiment le pouvoir concentré à un seul homme qui est le roi. Et il n'a pas besoin d'intercesseur, même s'il est quasiment de droit divin, pour aller discuter avec le jardinier en chef qui était Le Nôtre. Et on sait même d'ailleurs que, pour parler justement de ce type d'aménagement paysager dont on parle beaucoup avec l'arbre dans la ville, eh bien Le Nôtre avait un rapport tout à fait inhabituel avec le roi, et qu'il était la seule personne qui, quand il le voyait, le prenait dans ses bras, ce qui était évidemment quelque chose qui choquait énormément l'entourage de la cour, qui était à distance respectueux des rois, et qui faisait rire Louis XIV. Alors tout ça pour dire qu'en fin de compte, il y avait une relation directe, et qu'il n'y avait personne pour entre Louis XIV et son architecte paysagiste, comme on dirait aujourd'hui, et il n'y avait pas ses intercesseurs. Alors il faut dire qu'en fait, ses intercesseurs ont pris le pouvoir. Et souvent, les élus sont mis devant le fait accompli, parce que les choses sont trop complexes pour qu'ils comprennent, Et on leur fait comprendre aussi qu'ils n'ont pas le goût qu'il faut. Et on voit bien souvent des décisions, et ça j'ai pu le constater personnellement, qui sont prises par des élus qui quasiment n'ont pas été concertés et que l'on a mis devant le fait accompli. Donc tout cela est évidemment extrêmement fâcheux pour la démocratie et où on voit que en fin de compte la relation entre les élus et le peuple est complètement confisquée avec des gens dont on ignore la légitimité qui la plupart du temps se cooptent entre eux et créent un énorme malentendu. Alors, pour revenir à notre histoire de la rue de Metz, on peut d'abord s'étonner de la lenteur de ces travaux. Alors, je vous avais parlé de Paris, qui fait l'objet de critiques virulentes, mais bon, apparemment à Toulouse, on est beaucoup plus gentil. Mais personnellement, puisque quand même c'est mon métier, je ne comprends pas comment ces travaux durent aussi longtemps. Alors on a eu les exemples dont j'avais déjà parlé de l'aménagement du parvis de la gare Matabiau. Là aussi c'était un chantier où on voyait qui bloquait complètement un accès très important à la gare et aussi une voie le long du canal qui est vitale pour la ville et qui était doublée en plus de ça par un chantier qui a pris un temps incroyable qui était l'aménagement, le réaménagement des allées Jean Jaurès avec les fameuses mal nommées remblasses, qui n'étaient en fait que de revenir à un terre-plein qui existait précédemment et qui a bloqué, on peut dire, une grande partie de la circulation, créant des nuisances qui, si on les comptait en heures perdues, en naissances gaspillées, en pollution, seraient considérables. En plus de ça, on voyait des chantiers qui n'étaient avec très peu d'ouvriers, et on peut se demander comment une chose pareille puisse se passer aujourd'hui et que des chantiers comme cela puissent prendre les années. Alors, c'est un sujet dont on va parler dans la deuxième partie, c'est le temps justement des chantiers et aussi cette notion que les chantiers doivent être très longs et qu'avant, ça prenait des siècles. Alors, on va marquer une pause musicale et puis on va reprendre ses propos.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie. À midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser.
Aux Champs-Élysées, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées.
Reprenons donc sur la durée des travaux. Alors, il est communément accepté dans notre époque que nous sommes une époque de la rapidité, que tout va vite. Alors effectivement, il y a des choses qui vont très vite. On peut joindre à l'autre bout du monde dans la seconde avec un smartphone, ce qui était long il y a encore quelques décennies, beaucoup plus complexe. On a même les images en direct de partout. Or, on a l'impression que effectivement tout va plus vite. Et il est aussi admis qu'avant il fallait encore plus de temps, par exemple, dans les projets. Alors, il y a une certaine naïveté. On vous dit, ouais, mais les cathédrales ont mis des siècles à être construites. Mais non. Alors, si elles ont mis des siècles pour être construites, ce n'est pas parce que les entreprises travaillaient lentement. Parce que, bien souvent, pour les cathédrales, notamment du Moyen-Âge, nos cathédrales, en fait, il y avait des problèmes de financement. C'était payé par les fidèles et par l'aristocratie, mais aussi le peuple qui faisait des donations. Et donc, les bâtiments, par exemple, ils étaient couverts parce qu'on ne peut pas garder un chantier entre deux époques, par exemple. Donc, simplement, les ornements, les vitraux, tout cela, évidemment, qui demandait de l'argent, faisait appel à de la souscription, et ça pouvait s'étaler dans le temps. Mais, par exemple, les châteaux forts, ils étaient des systèmes de défense, et les gens qui les construisaient pas pour la troisième génération. Après, ils les construisaient. Les bastides de notre midi ont été construites, évidemment, en quelques années, corps de sur-ciel, etc. Donc, il ne faut pas penser que tout cela a pris des siècles, même s'il y a des sédimentations qui ont été faites, des ajouts, etc. Mais on arrivait à construire très rapidement. Un exemple incroyable que nous avons, c'est le canal du Midi. Le canal du Midi, qui est un ouvrage fantastique, énorme, à la fois d'une complexité hydraulique, avec des ponts canal, des passages souterrains, avec les problèmes d'adduction d'eau, le lac de Saint-Fréol et sa longueur, et tout cet ensemble de ponts de passages qui en font un ouvrage incroyable. Il a été construit en 15 ans. Regardez la moindre, ce qu'on appelle les ZAC, les zones d'aménagement concerté, ou par exemple à Toulouse, celle des ponts jumeaux, qui n'est pas encore terminée depuis 35 ans. Pour reparler du canal du Midi, il a été réalisé en 15 ans. Et le pauvre Riquet, il est juste mort avant son achèvement, mais il avait quand même, on peut dire, c'est pas sa mise en eau définitive, mais il a vu la construction de cet énorme chantier. Il n'y avait à l'époque que de la main-d'œuvre humaine et ou animale aussi, mais en tout cas il n'y avait absolument rien de nos extraordinaires engins d'aujourd'hui. Donc de voir des chantiers qui durent des années, surtout des chantiers assez faibles. Alors reprenons par exemple la rue de Metz où c'est les deux axes que sont rue de Metz et rue Alsace, rue du Languedoc. Mais pour parler de la rue de Metz, elle a été construite entre 1869 et 1872, 3 ans. Mais alors, à l'époque, il faut s'imaginer ce que c'était. Ce n'était pas du sol et quelques bacs à fleurs qui ont été aménagés. On a démoli tout un axe de maisons et on a non seulement démoli ces maisons, mais on a refait les façades, donc on a reconstruit la place Esquirol. Il y avait un vieux marché qui a été démoli, on a élargi, on a refait les façades, et tout cela s'est fait dans un temps de 3 ans, c'est-à-dire le temps de ces chantiers qui sont des chantiers de surface et qui sont des chantiers de rien du tout par rapport à ces énormes chantiers qui étaient des chantiers à la fois gigantesque en démolition, mais aussi en reconstruction. Et reconstruction, évidemment, en briques et en pierre, comme on peut les voir. Aujourd'hui, le nettoyage d'une façade en briques en pierre prend plus de temps qu'elle a mis à être construite. Il y a un petit problème là. Alors, quelle est l'explication ? Ben, je ne sais pas l'explication, je pense qu'il y a d'abord une incompétence à la fois de la technostructure et dans le choix aussi des architectes ou des responsables pour cela. Je vois que par exemple, il y a toujours ce fameux architecte urbaniste catalan qui a apparemment le monopole et le contrôle des opérations, mais on peut dire que ça se... c'est pas la célérité souhaitée. Alors c'est vrai que les entreprises comme les architectes et les ingénieurs et tous les experts qui sont maintenant aujourd'hui autour des projets, dans une dilution complète de responsabilité par ailleurs, eh bien, préfère que les chantiers soient longs, parce que les chantiers, on est payé, on a des étalements payés, tandis que avec la fiscalité française, quand vous recevez de l'argent, d'un coup, vous êtes fiscalement endommagé, et effectivement, l'année d'après, si vous n'avez pas les chantiers qui suivent, avec du personnel, c'est un peu compliqué. Donc, on peut dire que les chantiers qui traînent, ça avantage certains, mais ça n'avantage pas, et ça coûte énormément à tout le monde, à la collectivité, et les nuisances sont impensables. Donc, effectivement, cette rue de Metz, dont on ne voit pas très bien pourquoi il y a un chantier de cette longueur, qui n'arrive pas, qui coupe complètement la circulation, et aussi qu'on a choisi d'avoir l'autre rue qui était en sens inverse, qui était la rue Croix-Baragnon, et on peut se poser la question sur cette finalité. Et aussi, qui décide, comme je vous disais, j'ai quelques doutes sur la responsabilité seule des élus dans cela. Alors, il faut rappeler aussi qu'il y a autour des centres-villes, puisqu'il s'agit des centres-villes dont on parle, et pas de la ville elle-même, un surinvestissement. Je pense que ça peut être le mot à tous les sens du terme. Et au détriment, évidemment, d'autres quartiers qui reçoivent moins de soins. Il y a des routes défoncées dans toutes les villes, il ne s'agit pas que de Toulouse, et des nids de poules, et on a des matériaux qui sont incroyablement chers et aussi d'une grande qualité dans le temps, mais on ne voit pas très bien quel est l'avantage d'avoir fait la rue Alsace avec du granit extrêmement coûteux pour des cheminements piétons on veut franchir les millénaires, mais on n'en demandait pas tant, et les budgets sont absolument pharaoniques pour cette mise en piéton. Alors avant, c'était le contraire, c'est-à-dire que les rues piétonnes étaient bon marché, puisqu'en fait, il n'y avait que les piétons, et puis quand il y avait des charrois, puis on nécessitait, cela nécessitait des voiries qui étaient en dur, beaucoup plus solides, et là on a l'impression que c'est le contraire, c'est-à-dire que les voitures, évidemment, elles ont des pneumatiques, mais roulent dans des routes qui sont assez défoncées, et puis les piétons, alors c'est les piétons, ont des voiries extraordinaires qui sont supérieures aux voies romaines, comme si on devait franchir les millénaires. Alors, évidemment, ça pose aussi le sens de la politique. Là, par exemple, Toulouse avait repris au Moyen-Âge les deux axes. On n'avait pas repris le damier romain, puisque la ville romaine était, on peut dire, effacée. Mais on avait repris les deux axes qui étaient dans la logique de la géographie, un axe le long de la Garonne et un axe qui traversait la Garonne et effectivement qui avait la distribution. Alors aujourd'hui, ces deux axes qui pourtant structurent la ville, on peut dire même historiquement, il y a toutes les institutions qui peuvent même dans cette axialité, on peut remonter jusqu'à l'université, l'hôpital, l'hôtel de région, le palais de justice, la cathédrale, le marché des Carmes. En fait, on a tout le long le Capitole et on a ces taxes qui traversent la ville. Et en fait, contrairement à ce que l'on pense de la ville concentrique, la ville, elle est axiale et dans l'autre sens également, on a l'axe qui se croise. Donc aujourd'hui, la destruction de ces axes volontaires pour faire de la ville la ville de la carte Michelin avec un anneau que l'on ne voit pas d'ailleurs dans la réalité d'une vue aérienne. Vous ne voyez pas cet anneau, il est très artificiel. On a, et ça sera la dernière partie de cette causerie, on a recréé quelque chose qui est artificiel, on a créé un centre-ville. Alors, le centre-ville, je n'en avais déjà parlé, mais brièvement, je vais le rappeler, c'est une notion qui est tout à fait récente. Il y a évidemment l'histoire, mais cette histoire, elle est beaucoup plus complexe. Par exemple, il y a des quartiers qui sont des faubourgs qui existaient au Moyen-Âge, et puis il y a des quartiers comme la place Wilson qui n'existaient pas. C'est Napoléon Ier qui a incité la ville à créer cet endroit qui était un endroit non construit, non bâti. Donc, on n'est pas dans l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas la préservation d'une histoire, mais c'est une histoire inventée. C'est une histoire inventée et qui n'existait pas. Alors, moi, je me souviens, quand j'étais enfant, il n'y avait pas cette séparation. Les boulevards étaient les boulevards distribués, les quartiers, le quartier de la Colombette, et il y avait une continuité de la ville au niveau des matériaux. Il n'y avait pas justement ces horribles signes comme on a aujourd'hui. Il n'y avait pas non plus les changements de système de stationnement. On était dans une circulation qui était fluide. Et même s'il y avait des rues, il y avait un système de sens interdit, mais qui était à peu près fluide et généralisé. Donc on a créé artificiellement, on peut le dater, ça date d'après 68, et ça date aussi d'une génération d'architectes qui a cru bon de critiquer les générations d'avant. Les générations d'avant, on peut dire, les architectes de la modernité du XXe siècle avaient comme projet de créer des villes nouvelles. Donc on avait à Toulouse le Mirail, on a eu d'autres villes, par exemple les villes satellites autour de Paris, et il y a eu donc une sorte de prise de pouvoir de cette génération qui, en voulant tuer les pères, ont réinventé quelque chose qui n'existait pas. C'était la ville ancienne comme berceau idéal de la société. Évidemment, tout ça, c'est de l'invention complète. La ville aristocratique, il y avait les riches qui habitaient à un étage et les pauvres qui habitaient soit dans les rez-de-chaussée mal éclairés, soit sous les combles surchauffés. Et il n'y avait pas du tout ce vivre ensemble qui est un mythe qui serait poursuivi. Donc, pour ces raisons-là, on a donc créé ce cœur de ville qui est artificiel, et aujourd'hui on veut le rendre totalement piéton, ce qui est une absurdité historique, parce que justement c'était celui qui était le plus irrigué et qui était le par sa distribution du cardo et des cumanus était le signal justement de la distribution, on peut dire, des institutions qui rendaient la ville lisible, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc aujourd'hui, ben, on atteint le comble de l'imbécilité. On a d'abord petit à petit sacrifié et transformé la rue Alsace-Lorraine en une sorte de supermarché avec toute l'esthétique des supermarchés. On a eu ça pendant l'été avec ces trucs qui pendouillaient, et on va recommencer à Noël, et on a effectivement le supermarché américain qui va devenir la seule image de nos villes, au détriment évidemment de l'histoire et de la réalité et de la vie des gens. Donc le deuxième axe qui est recoupé, qui est la rue de Metz et le Pont Neuf, bah, il va être piétonisé au bénéfice de ne sait qui, parce que ces fameux deux pieds de roue ne représentent qu'une population très très faible, et les piétons, il faut le rappeler, excluent ça quand même, les piétons et les cyclistes, ils excluent une grande partie de la population, d'abord les enfants, les très jeunes, et aussi les personnes d'un certain âge, les personnes qui aussi travaillent avec en transportant des choses qui peuvent être des dossiers, mais qui peuvent être aussi des outils, et que effectivement en vélo, ce sont peut-être des oisifs qui peuvent en bénéficier. Ça veut dire que ça représente à peu près 5% de la population de l'agglomération. Tout ça est très fâcheux, et je vous quitte sur ces notes très pessimistes, et à très bientôt.